poussée comme un chêne tranquille. Laissée pour morte, elle gisait dans la paille de la grange, seulement animée d'une respiration fluette. Elle savait son heure arrivée, de n'avoir pu fuir, de n'être pas assez forte pour se battre contre son agresseur. Son destin s'arrêtait là, petit corps insignifiant au pied du box d'un grand cheval blanc. D'un léger coup de patte, Platon avait vérifié l'état de sa proie quelques minutes plus tôt. La souris ne bougeait plus assez pour être amusante. Il se dirigeait vers la maison après sa nuit de maraude quand il aperçut Édouard descendre l'escalier. L'animal avait senti, dès le premier contact, une hostilité de l'homme à son encontre. Lui, un chat si doux, si plaisant. Comment pouvait-on ne pas l'aimer? Platon hésitait. Rester à distance ou chercher à l'apprivoiser? Son animosité pouvait-elle être préjudiciable à Gaël et Gauvain? Il serait attentif et méfiant. Sortirait ses griffes acérées à la moindre menace. Plus matinal que les autres convives, Édouard entra le premier dans la pièce où se partageaient les repas communs, en manquant trébucher sur le chat qui profita de l'ouverture de la porte pour se faufiler entre ses jambes. Il surprit Gaël et Gauvain enlacés et s'excusa en rebroussant chemin. « Reste, tu ne nous gênes pas. » Le garçon se dégagea des bras de sa mère et disparut dans la cuisine pour enclencher la bouilloire d'eau et couper du pain, sans même jeter un œil à l'inconnu. « Le tutoiement ne te dérange pas? Nous nous tutoyons tous. » « Tu vous vois Suzanne. » « Tout le monde vous voit Suzanne. Tu as bien dormi ?»«
À peu près. Il me faut toujours un temps d'adaptation. »
« On s'adapte vite ici. Je n'en suis jamais reparti. » Je n'ai pas prévu d'y rester, juste réfléchir un peu. Je me suis laissé porter par les dires de Suzanne pour penser à moi. Quelqu'un pourrait te le reprocher? Ma femme. D'aucuns pourraient la juger complice, mais Gaël avait appris à rester neutre, sans prendre parti ou s'impliquer dans des conflits qui lui étaient étrangers. Elle rendait service quand on la sollicitait. Le reste ne lui appartenait pas. En quelques mots, Édouard lui expliqua pourtant son départ. L'appel du notaire, les vacances difficiles, sa femme abandonnée sur le parvis après les mots de Suzanne, ses remords somnifuges, le recul nécessaire. Un écureuil se promenait dans la cour. Un pelage roux, une queue touffue, le regard perçant et les gestes furtifs. Il évoluait sous ses yeux avec la légèreté et la grâce d'une ballerine. « Oh, un écureuil !»« C'est rare !» s'exclama Gaël. « Ils ont souvent peur du chat. »« Rare et intéressant !» s'écria-t-elle en se dirigeant vers la bibliothèque installée dans un coin de la pièce. « Je crois qu'il a une symbolique particulière, » dit-elle en tirant un livre par sa tranche et en l'ouvrant à l'index alphabétique.
Je ne crois pas trop aux symboles et aux signes.
On ne croit qu'à ce qui nous parle. Tiens, l'écureuil. Il augure l'arrivée d'une transformation majeure et ou la nécessité de se délester de ce qui ne porterait plus aucun fruit. Donnez ce dont vous n'avez plus besoin et préparez-vous au grand changement. Une signification pour toi? Une tasse de thé entre les mains. Elle enveloppait Édouard de son regard. Gaël considérait les autres avec délicatesse. Ainsi se livrait-on à elle avec spontanéité et confiance. D'en avoir l'habitude ne l'empêchait pas d'accueillir ses élans de confidence avec étonnement. Et pour savoir si on ne s'est pas trompé, quel animal faut-il voir? On n'a pas besoin d'un animal pour nous le dire. Il suffit de choisir d'agir pour réaliser ses rêves. Édouard rembobina mentalement la phrase de Gaël. Elle complétait à merveille la lettre qu'il lisait et relisait depuis 2 semaines. Ainsi, lui martelait-on avec insistance, y compris à travers les traits d'un écureuil, ce principe mis de côté à l'adolescence. Il s'était construit des rêves doux, ambitieux, puissants, et quelqu'un les avait enfermés à double tour en jetant avec mépris la clé dans un abîme. Les yeux dans le vague, il ne vit pas Gaël préparer la table du petit déjeuner. Toute la vaisselle était uniforme, en céramique, d'un bleu intense et lumineux, aux reflets moirés. Elle prenait grand plaisir à soigner la présentation. La nourriture est plus savoureuse quand la table est jolie, non ? Artisanat local ? Demanda Édouard en saisissant l'une des tasses pour s'accrocher à une rassurante matérialité. On ne peut plus local.
Tu les fais toi-même ?
Non. Un potier dans le hameau d'à côté. Moi, je fabrique des lampes. Elle pointa alors son doigt vers l'angle de la pièce à côté du canapé. Une immense branche de bois lisse, tortueuse et cirée, entourée d'un large fil électrique qui finissait en une grappe de suspension en métal au-dessus du vide, s'élançait vers le plafond. Nous serons à l'atelier cet après-midi. Je pourrais te montrer les productions en cours.
Tu as aussi réalisé la lampe de la chambre des désespérés ?
Des désespérés ?
C'est ainsi que Suzanne me l'a présentée. La petite chambre au cas où, pour les désespérés comme moi.
Gaël sourit, avant d'ajouter que dans « désespoir », on entend « désespoir ». Puis elle disparut dans la cuisine pour chercher le plateau chargé de nourriture et de boissons. Édouard observait la petite étagère à compartiment fixé à droite de la porte d'entrée. 5 téléphones portables y étaient rangés, chacun dans un casier.
« Il y a un casier pour toi, si tu veux », l'invita Gaël.
« Dans quel but ?»«
Couper, pour profiter de la nature. »
« J'ai proposé le principe il y a 3 ans. À force de voir tant de touristes passer quelques jours au vert sans réussir à déconnecter. »
Elle avait atterri dans la forêt comme on arrive au bout d'un chemin de fuite, désertant l'agitation des hommes, la fausseté, la compromission, les jeux de pouvoir et de domination.
Elle s'était soustraite à la société de consommation, l'acharnement publicitaire et la rentabilité à tout prix. Elle ne demandait rien d'autre qu'être heureuse dans la discrétion et la simplicité. Elle voyait passer des coachs, des guérisseurs, des gourous, des guides, de ceux qui prétendent faire le bien autour d'eux alors qu'il n'est question que d'argent, de ceux qui piétinent la nature en faisant semblant de la vénérer, à coups de morceaux de miroirs brisés, fichés dans l'écorce des vieux sages de la forêt, soi-disant pour fêter des dieux intérieurs ou célestes, sans penser qu'un être blessé dans son aubier allait devoir composer avec le mépris de certains et pousser autour de leurs incantations tranchantes. Son dieu, à elle, se cachait dans les arbres, dans les herbes, dans le soleil et dans la pluie. Elle se contentait de se nourrir et faire manger son fils, l'aider à pousser droit comme un chêne tranquille et vivre au rythme des saisons pour savourer la beauté des feuilles d'automne et la neige sur les sentiers, la renaissance printanière et la chaleur de l'été.
La forêt n'est pas dangereuse. On peut s'y promener sans téléphone.
Édouard remarqua l'étui de la romancière. Il supposa que les deux autres appartenaient au couple de clients encore présents. Manquait celui d'Adèle. Ainsi ne jouait-elle pas le jeu, pensa-t-il.
Adèle n'en a pas, dit Gaël comme si elle avait lu dans ses pensées.
Une jeune femme de son âge ?
Elle est arrivée sans téléphone, il y a un peu plus d'un an, et n'en a pas éprouvé le besoin ici.
De quoi vit-elle ?
De peu.
Je la loge, je la nourris, elle m'aide en retour.
Elle propose quelques visites comptées de la forêt pour l'office du tourisme.
Il s'en voulut d'avoir porté un jugement trop hâtif. Élevé dans la normalité, la marginalité de certains le questionnait cependant.
Je ne suis pas dépendant de mon téléphone. En ce moment, il est éteint sur le fauteuil à côté du lit.
On est parfois bien plus dépendant qu'on ne pense.
Ne le regardes-tu pas à peine les yeux ouverts le matin ?
Si. J'y règle la fonction réveil. Il faut bien que je l'éteigne.
Et tu ne rafraîchis pas ta boîte mail plusieurs fois par jour ?
Si, pour le travail.
Même le week-end ?
Oui. Quand je suis d'astreinte, je le consulte moins que ma femme. elle passe son temps à communiquer avec ses amis sur les réseaux sociaux. Gaëlle lui suggéra d'essayer de le couper, même s'il ne se sentait pas dépendant. Cette mise en quarantaine lui offrait le droit d'aller respirer les arbres de la forêt sans être joignable à toute heure. Édouard le lui promit, peut-être plus tard.